On parle travail et confinement ce soir aux oreilles, travail invisible, travail gratuit. Et je me suis penchée sur la situation des précaires de la recherche pendant le confinement. Non seulement ce sont eux et elles qui, bien souvent, assurent la surveillance des stocks pendant cette période, par exemple dans les labos de biologie, mais ils sont particulièrement fragilisés par l'arrêt des expériences et des enquêtes, puisque leurs contrats ne seront vraisemblablement pas prolongés du temps du confinement. Ils et elles risquent donc de sortir d'un semi-confinement sans avoir pu boucler leurs recherches et sans perspective. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. J'ai interviewé une chercheuse précaire qui s'était d'abord mobilisée contre la loi de programmation pour la recherche. Je reviens avec elle sur la situation de la recherche française avant même le confinement.
Le collectif là, en ce moment, qui est vraiment actif, c'est FAC et Labo en lutte, qui a géré les caisses de grève et là qui essaye, notamment je sais qu'ils ont fait une caisse de solidarité, donc c'est FAC et Labo en lutte, je pense, les plus actifs. Nous, notre collectif, c'était un collectif de 20 personnes dans notre institut, où on a essayé de se mobiliser pour la grève, mais maintenant on n'est plus très actifs.
Contre les retraites.
Contre les retraites et contre le projet du plan pluriannuel de la recherche.
Qu'est-ce qu'il en est là actuellement de ce plan ?
Eh bien en fait, c'est toujours un peu en stand-by. Il y a quand même quelques textes qui ont été divulgués, qui sont toujours exactement sur la même ligne. C'est-à-dire en fait, en gros, les seules avancées que propose la ministre, c'est donc la revalorisation des salaires des jeunes chercheurs. Et sinon, toujours ce qui est dans les projets, c'est augmenter un peu le budget des agences de financement de type ANR, alors que ce que demandent les chercheurs, c'est vraiment de récupérer de l'argent pour des budgets permanents et récurrents.
Enfin, mais qu'est-ce que c'est ce mode de financement par ANR ? Parce qu'on en a pas mal parlé au moment justement de la loi de programmation pour la recherche.
En fait, c'est des appels à projets sélectifs où les chercheurs font donc proposent un projet et qui sont évalués par d'autres chercheurs d'ailleurs. Hein. Et ensuite, un budget est alloué pour les projets sélectionnés. Sauf que c'est ultra compétitif et que du coup, c'est toujours en gros les mêmes axes de recherche un peu en vogue ou qui sont sûrs d'avoir des résultats assez rapidement qui vont être financés. C'est pas spécialement le type de financement qu'on a besoin pour développer la recherche fondamentale, où on a besoin de financement justement sur des projets qui sont beaucoup plus sur le temps long, dont les résultats sont pas spéciaux. On ne peut pas vraiment prédire quels seront les résultats et quelles seront les avancées précises. L'ANR, c'est vraiment pour financer des projets à court terme sur des choses déjà assez bien établies. Et surtout, c'est ultra compétitif et il y a très, très peu de projets sélectionnés finalement.
Et on en a parlé un petit peu là justement sur le coronavirus, il y a eu des ANR qui ont été débloqués pour la recherche sur le coronavirus.
L'appel de l'ANR sur le financement du Covid-19, donc ils ont débloqué 14,5 millions d'euros pour un premier appel à projet Covid-19 et ils sont en train de lancer un nouvel appel à projet là sur une nouvelle vague où on a jusqu'en octobre je crois pour soumettre son projet. Donc ce que je voulais dire là-dessus, c'est que c'est très bien qu'on débloque de l'argent pour la recherche sur les coronavirus en ce moment. Après, c'est toujours le problème des effets d'annonce en recherche, parce que donc là, on va se mettre à effectivement dépenser beaucoup d'argent sur la recherche sur les coronavirus. On va se mettre à former même des chercheurs, des thésards spécialistes des coronavirus. Et après, si ce type de recherche n'est pas pérennisé, si on arrête les financements, comme en fait c'est ce qui s'est passé après la crise du SRAS dans les débuts des années 2000, où il y a beaucoup de projets sur les coronavirus ou sur les virus qui ont été financés, et puis ensuite après le financement s'est arrêté. Enfin, tout ça n'a pas vraiment de sens pour développer vraiment une recherche fondamentale et du coup endiguer et répondre rapidement aux pandémies comme on le voit actuellement, parce que plus personne ne travaillait sur les coronavirus de façon vraiment très active en France au moment de cette épidémie là de Covid-19. Enfin, je ne devrais pas dire plus personne, parce qu'il y a quand même certaines équipes de recherche qui continuaient à travailler là-dessus, mais qui n'étaient pas financées de façon très pérenne, qui devaient toujours faire des appels à projets financés une fois oui, une fois non.
Et est-ce qu'il y a un risque actuellement que tout cet argent qui soit mis là sur la recherche pour le
Covid-19 ou sur les coronavirus en général, ce soit autant d'argent qui ne soit pas mis ailleurs et peut-être même sur des recherches sur des virus qui peuvent apparaître ces prochaines années.
Bah oui, tout à fait. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment d'où vient cet argent, ces 14,5 millions d'euros là, pour l'instant débloqués par l'ANR. Est-ce que c'est vraiment juste de l'argent en plus ou bien est-ce que ça va être pris sur le budget de l'ANR globalement ? Tout ça, en fait, on n'en sait rien. Et c'est effectivement la crainte actuelle que ce soit juste une redistribution où tout d'un coup, sur effet d'annonce, on distribue tout sur cet appel à projet sur le coronavirus et qu'on néglige du coup encore une fois ou qu'on stoppe des financements sur d'autres types de projets, soit de virus, mais je veux dire, il y a même plein de types de projets en recherche fondamentale qui pourraient avoir un impact sur différents types de crises environnementales, sociétales ou de pandémies comme celles qu'on traverse actuellement, qui, si elles ne sont pas financées de façon pérenne, n'ont plus beaucoup d'intérêt, quoi.
Et on a un petit peu parlé de ce fameux cryomicroscope sur le coronavirus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Ça, c'est juste vraiment un peu une histoire assez anecdotique, mais c'est un équipement très coûteux, exactement. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais un cryomicroscope, c'est un microscope très performant, très coûteux, et qui peut notamment servir dans différents types de recherches, mais aussi dans la recherche sur les virus, et notamment sur les coronavirus. Et en fait, il y a eu toute une polémique récemment, parce qu'une équipe de Marseille qui travaille sur les coronavirus demande depuis plusieurs années un financement pour acquérir ce type d'équipement et la ministre de la Recherche et de l'Enseignement s'est un peu moquée de la personne demandant ce financement en disant non mais de toute façon on n'a pas besoin d'investir dans ce type d'équipement maintenant, il existe un microscope, un cryomicroscope à Nice dans l'université que j'ai dirigée pendant des années. Alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Ce type d'équipement n'existe pas à Nice. Et c'était juste une manière, encore une fois, de dire on ne va pas débloquer des sous pour votre recherche.
Mais en fait, c'est pas si anecdotique que ça, parce que ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur les ANR, c'est-à-dire que la logique en ce moment, c'est que, la logique depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on débloque des fonds sur un projet sur 3 à 5 ans, et puis tous les autres projets ne sont pas financés. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les projets sur les coronavirus étaient relativement peu financés.
Exactement. Et en plus, surtout, de financer un projet sur 3 à 5 ans, bon, c'est déjà bien, effectivement. Mais si après, le financement s'arrête, en fait, tous les efforts qui ont été faits pendant ces 3 à 5 ans, pendant ces quelques années, peuvent s'arrêter net. Et en gros, un projet... vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche, elle se fait vraiment sur le temps long, en fait. On ne peut pas prédire des résultats et juste se dire, en 5 ans, je vais découvrir ça. On a vraiment besoin de financement récurrent sur le long terme.
Et on parle beaucoup en ce moment des précaires de la recherche. Mais qu'est-ce que c'est, ces précaires de la recherche ?
C'est la majorité du personnel de la recherche, en fait. Ça comprend tous les étudiants, donc qu'ils soient encore dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire au niveau licence master, ou tous les doctorants qui sont encore étudiants, et toute la catégorie des post-doctorants, donc qui ont déjà soutenu leur thèse, mais qui sont sous contrat CDD. Il faut savoir que les doctorants et les post-doctorants sont vraiment les personnes qui font avancer le plus. On peut voir la recherche, on peut voir ça en termes de publication. La majorité des premiers auteurs sont souvent des doctorants, des post-doctorants. Et à ça s'ajoute aussi toute la catégorie des aides techniques à la recherche, donc tous les ingénieurs, par exemple, ou des aides techniques, qui sont aussi majoritairement sous contrat CDD, donc qui ne sont pas employés de façon pérenne. Alors que c'est tout ce personnel-là qui est vraiment la base du personnel qui fait importante pour la recherche en France et dans tous les pays d'ailleurs.
C'est-à-dire que ça se passe comment en termes d'organisation d'un labo ? Il y a des étudiants, il y a des post-docs, il y a quand même quelques statutaires. Donc, et puis ça tourne ou...
Donc dans un labo, généralement, il y a le chef d'équipe qui est statutaire. Ça dépend un peu de l'organisation, mais moi, je peux vous parler de ce que je connais en biologie surtout. Donc, il y a un chef d'équipe statutaire, 1 à 2 étudiants par labo. Pareil, disons 2 post-doctorants et 1 à 2 ingénieurs qui sont souvent aussi des CDD. Donc, tous les précaires, donc tous les CDD sont amenés à rester en fait le temps de leur contrat. Donc, pour les doctorants, c'est entre 3 et 4 ans. Les post-doctorants, c'est des contrats beaucoup plus courts. C'est souvent des contrats de 2 ans qui sont parfois renouvelables, mais On a de plus en plus de difficultés à trouver des sources de financement. Et donc, effectivement, c'est des personnels qui tournent de labo en labo et qui souvent font une partie de leur expérience professionnelle en France, mais également une partie de leur expérience à l'étranger, et qui espèrent un jour rentrer en France. En fait, souvent, c'est ça qui se passe, et qui espèrent rentrer en France et avoir décocher un poste permanent dans un labo en France, sauf que c'est devenu de plus en plus difficile.
Et ces financements, c'est financé par qui? Parce qu'en fait, on a un peu du mal à s'y retrouver. Moi, les gens que je connais qui sont justement ces fameux précaires de la recherche, il y en a qui ont des bourses, il y en a qui sont financés par l'Union européenne, il y en a qui sont financés quand même en CDD par l'État.
Ouais, alors il y a différents types de... Effectivement, il y a différents types de financement et de bourses donc, pour ces précaires. Donc la majorité des doctorants ont un contrat, sont financés par l'État, c'est le ministère qui débloque un certain nombre de bourses de thèses, sachant qu'il y a aussi des thèses qui sont financées par des instituts privés. Donc, par exemple, encore, je prends l'exemple de la biologie, mais donc il y a l'Oréal, effectivement, ou même l'ARC, l'Agence de la recherche sur le cancer, ou la Ligue, ou ce genre d'institutions qui peuvent avoir des contrats doctoraux. En ce qui concerne les postdocs, il y a un certain nombre de contrats postdocs qui sont financés notamment par l'ANR. Donc, l'ANR peut aussi permettre de financer des postdoctorants. Et il y a un certain nombre d'institutions à l'échelle européenne, comme les bourses Marie Curie, par exemple, enfin, qui aussi financent sur des... ou l'EMBO, je ne sais pas si vous... C'est des institutions qui vous disent quelque chose, qui sont donc des institutions à l'échelle européenne qui donnent des bourses pour financer des post-docs sur une durée souvent de 2 à 3 ans.
Et quelle est la logique, en fait, d'après toi, justement, quelle est la logique de ce type de financement? C'est de réduire le financement public de la recherche en France ou c'est qu'il y a derrière un discours un peu, je ne sais pas moi, justement, pour renforcer la compétitivité entre chercheurs, renforcer l'adaptabilité du chercheur, que sais-je?
Je pense qu'en fait, c'est vraiment un moyen qu'on a réussi à... qui s'est mis en place progressivement, selon moi, je ne sais pas trop, mais... Parce qu'en fait, on ne peut pas se passer de ce type de personnel. Enfin, du coup, ça concerne la majorité des jeunes chercheurs qui sont les plus productifs, qui sont en train de vraiment de construire leur carrière. On ne peut pas se passer de ce type de personnel, sauf qu'effectivement, on a tellement réduit le financement public et surtout, on recrute des personnes de plus en plus tard dans leur carrière que ce type de financement s'est mis en place pour pouvoir garder quand même un minimum de masse critique de chercheurs performants au début de leur carrière dans le système.
Et on a une idée du nombre, du pourcentage de précaires dans les labos?
Les chiffres globaux du nombre de précaires dans l'enseignement supérieur et la recherche, ça représente donc à peu près 40% des personnels administratifs et techniques, donc qui comprend aussi les ingénieurs et techniciens de laboratoire dans mon cas, et ça représente environ 30% du personnel d'enseignants-chercheurs et de chercheurs. Et ça, tous ces pourcentages-là, c'est sans compter les contrats de vacataires. Donc, qui sont en fait également des personnels précaires, mais qui ne rentrent pas en compte.
Qui ne sont pas comptés dans ces chiffres-là.
Donc, ça, c'est les chiffres globaux. Après, moi, dans mon expérience personnelle de comment fonctionne un labo en biologie expérimentale, à peu près, à chaque fois dans les différents labos dans lesquels j'ai été ou que je voyais fonctionner à côté, il y a quand même plus de 50% du personnel qui était du personnel précaire.
Plus de 50%?
Ouais. Je dirais plus de 50%, ouais, dans des labos qui sont plutôt des petites structures, des labos qui regroupent environ 10 personnes. C'est beaucoup comme ça que ça fonctionne en biologie expérimentale. Il y a environ 50% du personnel qui est précaire, qui comprend donc tous les doctorants, post-doctorants, personnel administratif et ingénieur.
Et là, actuellement, dans ton labo, c'est pareil, c'est le cas?
Alors, dans mon labo, c'est un peu particulier. Un peu particulier en ce moment parce qu'on est un labo qui justement a beaucoup de statutaires. Donc il y a 4 chercheurs statutaires dans mon labo pour une équipe de 10 personnes et ça c'est très exceptionnel en fait. Il faut que je précise, il y a 4 chercheurs statutaires plus le chef d'équipe. Donc ça fait 5 personnes sur 10 personnes au total. Ouais, c'est ça. Donc
ça fait 50%.
Ça fait 50%, mais sachant que par rapport à tous les autres labos que j'ai côtoyés jusqu'à présent, c'est assez exceptionnel qu'il y ait autant de statutaires et de chercheurs statutaires.
On va peut-être rentrer dans le vif du sujet. En fait, moi, ce qui m'avait interpellée, c'est que la semaine dernière, il y a une tribune qui est parue justement sur les précaires de la recherche, particulièrement pendant le confinement. Comment ça se passe, la recherche, pendant le confinement ?
Comme la plupart des autres domaines, on a essayé de s'adapter et donc le mot d'ordre, ça a été tout le monde en télétravail, en tout cas le plus de personnel possible en télétravail. Après, en biologie, le problème, c'est qu'on travaille avec du vivant, donc il y a quand même des stocks d'animaux ou d'espèces vivantes qu'il faut maintenir au laboratoire et qu'il faut conserver. On ne peut pas juste mettre dans des placards et les ranger. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place un système où un nombre restreint de personnel pouvait continuer à avoir accès aux locaux, notamment pour maintenir les animaux en vie, en gros, s'occuper des animaux et maintenir les animaux en vie pour une reprise plus tard de l'activité. Après, le télétravail, c'est possible jusqu'à un certain point. Il y a quand même la majorité de notre travail qui consiste à faire des manips, en biologie en tout cas, et donc on a besoin d'être sur place, d'avoir l'équipement spécial du labo pour travailler. Donc le télétravail ne peut pas forcément s'appliquer partout. Après, en ce qui concerne vraiment les précaires, eux, ils ont subi exactement les mêmes règles que tout le monde, c'est-à-dire on leur a demandé de télétravailler le plus possible. Le problème, c'est que, comme je viens de le dire, en fait, les travaux de recherche se sont forcément quand même de toute façon arrêtés pendant les mois de confinement. Malheureusement, et notamment le but de cette tribune, la tribune a demandé que le contrat des précaires soit rallongé d'autant de mois de confinement, à minima en tout cas. Mais pour l'instant, il n'y a aucune suite qui a vraiment été donnée à cette idée. Donc la ministre a dit qu'elle était d'accord pour allonger notamment les contrats doctoraux de 2 mois, là par exemple, parce que c'est le temps du confinement. Ceci dit, elle n'a fait aucune proposition sur quels sont les moyens de financement. Qu'est-ce qui va financer ? Le ministère n'a fait aucune proposition pour allonger les contrats doctoraux pour l'instant. En termes de financement.
Pour bien comprendre, en réalité, ces mois de confinement pour la plupart des jeunes chercheurs qui sont justement sous ces types de contrats précaires ont perdu ces 2 mois en termes de manip.
Exactement.
Mais ils ont été payés pendant ces 2 mois.
Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de possibilité dans le financement du service public, de ces types de contrats, de les faire passer en chômage partiel. Donc, ils ont gardé leur contrat. Sauf que, ils ont été payés déjà pendant le confinement. En tout cas, leur salaire a été payé pendant la durée de leur contrat. Par contre, en fait, il n'y a aucune mesure concrète d'essayer de trouver un financement pour les financer au-delà de leur contrat, notamment pour récupérer, en gros, les quelques mois qu'ils ont perdu de leur recherche pendant le confinement. Notamment, dans les recommandations de cette institution Marie Curie qui donne des bourses de post-doc, et indiquer justement dans la partie confinement que chaque personnel peut et doit avoir accès au système de sécurité sociale de son pays, et notamment au chômage, s'ils veulent en gros interrompre leur bourse durant le confinement. Sachant qu'en plus, la majorité des personnes qui sont sous ce type de contrat sont des personnes étrangères qui n'ont pas forcément encore de numéro de sécurité sociale, connaissant les délais de l'administration, etc. Donc ce n'est pas spécialement non plus quelque chose qui va se faire forcément automatiquement.
Pouvoir bénéficier vite, quoi.
Voilà. Et en gros, ils ne proposent aucune solution pour rallonger la durée de leur contrat, mais en gros, demandent à leurs agents, enfin, aux personnes qui financent, vous avez qu'à bénéficier du système de sécurité sociale de votre pays, en gros.
Et oui, parce qu'on n'en a pas parlé avec toi, je ne sais pas si vous êtes concernée dans ton institut, mais en fait, il y a aussi la question de toutes les personnes, les étudiants, les post-doctorants, les doctorants, etc., qui ont des problèmes de visa et qui vont avoir rapidement là, des problèmes de papier, puisque pendant le confinement, ils n'ont pas pu ni faire de démarches administratives, ni avancer leur projet. Et si leur contrat s'arrête là en juin, en fait, ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir être renouvelés pour leur visa d'étudiant.
Oui, tout à fait. Alors moi, je ne connais pas exactement ces situations comme ça concrètes directement autour de moi, mais c'est effectivement un point très important à soulever. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer pour eux. Je sais qu'il y a quand même certains assouplissements administratifs qui sont possibles au moment du confinement. Moi, je sais que, par exemple, j'ai dû changer de contrat là, au milieu du confinement, et que finalement, ils ont pu prolonger me faire changer de contrat et faire que je sois sans interruption dans mon salaire, alors que mon contrat n'a pas été signé normalement, comme physiquement. Après, pour tout ce qui est des questions de visa, je pense que c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et effectivement, je pense que ça va poser beaucoup de problèmes. Oui. Je ne sais pas exactement comment ça va être réglé. J'espère qu'il va y avoir des assouplissements possibles pour ce genre de situation, mais je ne sais rien, en fait.
Parce qu'en fait, l'enjeu, si j'ai bien compris, c'est que tous ces gens qui sont précaires, qui sont sous des contrats courts, vont sortir du confinement devant reprendre leur recherche où elles s'étaient arrêtées il y a 2 mois.
Voilà.
Et donc risquent de voir à terme leur contrat s'arrêter sans avoir fini leur projet, quoi.
Exactement. Exactement. C'est exactement ça la problématique ici. Sachant qu'en plus, la recherche est complètement arrêtée pendant 2 mois, mais en biologie, donc encore une fois, souvent cet arrêt va demander beaucoup plus que 2 mois pour remettre en route tout le système. Parce que notamment, quand on travaille avec du vivant, il faut arriver à retourner à une étape où... par exemple, si on travaille avec des animaux, les animaux qu'on étudie soient amplifiés, qu'on ait le bon
stade. Refaire les lignées, etc.
La remise en marche d'une activité qui s'est arrêtée pendant 2 mois, notamment en biologie, ça peut prendre beaucoup plus que 2 mois. Enfin, ça peut augmenter le temps d'arrêt. On ne peut pas reprendre exactement au même point où on s'était arrêté juste avant le confinement, du jour au lendemain, en fait. Ça demande de remettre en place.
Et donc, cette tribune, ce qu'elle demande, c'est que tout ce temps perdu soit financé, quoi.
Voilà, exactement. Et elle demande au ministère, précisément, spécifiquement, de s'engager à financer les mois de confinement aux personnes précaires de la recherche et de l'enseignement.
Et pour être pas de nouvelles jusqu'à présent ?
Non.
Et toi, dans ton expérience, du coup, là, de ton labo, les personnes précaires sont concernées par cette non-prolongation des contrats par rapport à leur projet pendant le confinement ?
Tout à fait. En fait, aucun de nous ne savons si notre contrat va être prolongé. Et pour l'instant, d'ailleurs, rien ne nous a été dit. On n'a aucune information. Et il y a très peu de chances. Enfin, on ne se fait pas beaucoup d'illusions, mais il y a très peu de chances que nos contrats soient prolongés du temps du confinement.
Et l'autre conséquence de ce mode de fonctionnement, si j'ai bien compris, c'est que tous ceux qui vont être déconfinés à partir du 11, ça va être justement les personnes précaires, pour qu'elles puissent finir au plus vite possible leurs papiers, leurs expériences, etc.
Oui, effectivement, ça fait partie du plan de déconfinement qu'on met en place un peu les différentes structures de recherche, où finalement on donne la priorité du déconfinement au personnel précaire qui a des impératifs, notamment... de publication, de terminer des projets le plus rapidement possible sur les quelques mois de financement ou quelques années même de financement qu'il leur reste. Donc c'est souvent effectivement eux qui vont reprendre le travail tout de suite. C'est souvent eux aussi, il faut le dire, qui se sont occupés de maintenir en état et en vie les stocks ou à faire fonctionner au ralenti les animaleries ou le type de structure qui avait besoin de personnel pour venir pendant le confinement.
Tu dis ça parce que c'est ton cas. Donc là, auditeurs et les auditrices ne le voient pas, mais je fais l'interview quand tu es dans ton labo.
Exactement. Donc effectivement, moi, je dois venir assez régulièrement, 1 à 2 fois par semaine au labo pour m'occuper du stock de drosophiles. On travaille sur la drosophile. Voilà. Et c'est effectivement souvent des précaires qui sont assignés à ces tâches pendant le confinement.
Alors, un mot de la fin pour conclure.
Cette tribune est accompagnée d'une pétition sur change.org que je vous invite également à signer. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site de Fac et Labo en lutte. Je sais qu'ils ont mis en place une caisse de solidarité pour soutenir les précaires de la recherche. Donc, vous pouvez contribuer et ils essayent de répartir l'argent récolté pour tous les précaires qui en ont besoin dans cette période de confinement notamment. What a wonderful